This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nous sommes en guerre.
Moi, je, personnellement, je m'étouffe.
Accélère! Accélère! Ils sont aux ordres du pognon!
Merci.
Vous laissez la star tranquille.
Des révélations sur les orphelinats de l'horreur au Canada, l'examen le plus dur au monde, un pays qui rend la vaccination obligatoire en Europe, ou encore des révélations importantes sur le monde du football après un live sur Twitter. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de la semaine, ça fait plaisir. Nouvel album d'Orelsan, ça fait plaisir aussi. On est parti comme chaque jour de la semaine pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec un premier sujet qui va peut-être vous faire relativiser par rapport à vos partiels que vous avez peut-être en ce moment, c'est le cas d'ailleurs, bon courage. Mais là, en l'occurrence, c'est un examen assez fou qui est passé chaque année par des jeunes en Corée du Sud. Et c'est un examen aux conditions assez drastiques. Cet examen, en fait, il avait lieu ce jeudi dans tout le pays. Il s'appelle le Suneung et c'est en fait 8 heures d'épreuve en une seule journée. C'est en quelque sorte l'équivalent du bac, sauf que là, donc, il est passé par les 500 000 jeunes coréens chaque année d'un coup. Et avec un enjeu quand même beaucoup plus important, puisque eh bien, c'est plus un concours en réalité qu'un examen comme le bac. En effet, eh bien, les élèves sont classés et il faut avoir une certaine note pour pouvoir continuer certaines écoles. Et en gros, ben, les élèves intègrent des universités plus ou moins prestigieuses en Corée du Sud en fonction de leur classement à l'échelle nationale. Le truc, c'est qu'en Corée, où les études sont hyper importantes, le résultat de cet examen, eh bien, il a des conséquences pour toute la vie. L'université que vous intégrez va avoir un impact sur votre statut social, donc la façon dont les autres vous voient, les cercles que vous pouvez intégrer, ça a un impact aussi évidemment sur vos revenus, ou encore aussi sur vos chances de vous marier dans certains cas. Alors, face à un tel examen, où on a l'impression que les élèves jouent littéralement leur vie, eh bien, comme chaque année, le pays s'est presque arrêté de vivre un jour, ce jeudi, le temps du passage des examens, et le gouvernement, pour ça, a donc pris des mesures assez dingues. Tous les commerces, les banques ou encore la bourse ont dû ouvrir une heure plus tard que d'habitude pour limiter la circulation et faire en sorte que les élèves, les étudiants puissent aller passer cet examen. Au-delà de ça, des motos et des voitures de police étaient disponibles dans certaines zones pour aider des élèves coincés dans la circulation ou qui seraient en retard. Bref, tout est fait le temps d'une journée pour que, eh bien, il y ait le plus de conditions réunies pour passer les examens au mieux. Pour vous donner un ou deux exemples en plus, pendant une épreuve d'anglais où fallait écouter un audio, eh bien, tous les décollages et tous les atterrissages d'avions ont été suspendus pendant 35 minutes et les avions en vol avaient interdiction de voler à moins de 3000 mètres d'altitude pour que aucun bruit ne vienne perturber les élèves et ne les empêche donc d'aller écouter cette compréhension orale en anglais. Alors, on va pas se mentir, vu comme ça, c'est assez insolite, assez intriguant, etc., etc. Mais en réalité, au-delà de cet aspect insolite, faut savoir que cet examen est assez critiqué en Corée du Sud, notamment pour ses effets tout simplement sur la santé mentale des jeunes. En fait, selon ses détracteurs, c'est l'une des raisons de l'énorme taux de suicide des jeunes en Corée du Sud, qui est en fait l'un des plus élevés au monde. Et selon une étude de 2017, près de 40% des jeunes sud-coréens souffrent de stress chronique à cause de leurs études au quotidien. Bref, c'est un examen crucial, assez unique dans son genre et dans les conditions qui sont mises en œuvre pour que tout le monde le passe au mieux, même si évidemment c'est pas le seul pays à avoir des conditions parfois aussi drastiques. Ça a en tout cas donné lieu à un film policier, notamment Suneung, sorti en 2014. Voilà, écoutez, je sais pas si ça vous intéresse, petit lien culturel avec ce sujet qu'on vient de voir. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler des milliers d'enfants morts dans des pensionnats canadiens, des drames que les experts définissent aujourd'hui comme un génocide culturel. Alors, c'est un sujet qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer sur la chaîne pour ceux qui s'en souviennent peut-être il y a quelques mois dans ce format des Actus du jour, puisque eh bien, au mois de mai, les restes de 215 corps d'enfants avaient été découverts dans une fosse commune du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique, donc à l'ouest du Canada. Et là, en l'occurrence, on en reparle aujourd'hui parce que Le Monde a publié une enquête très importante à ce sujet, et au-delà de ça, eh bien, ça a fait réagir notamment le pape. En fait, à la fin du 19e siècle, au Canada, eh bien, les colonies britanniques, qui avaient donc colonisé ce qu'est le Canada aujourd'hui, se sont mis à ouvrir avec eh bien, l'appui, le soutien et même la gestion de l'Église catholique, des pensionnats où en fait des enfants ont été scolarisés, et ces enfants, c'était donc des enfants des communautés amérindiennes, ces communautés donc qui étaient présentes sur ces territoires bien avant les Britanniques, et qui donc eh bien, ont été placés dans ces écoles par les Britanniques pour que eh bien, ces enfants puissent s'intégrer à la culture britannique. Le truc, c'est que c'était très loin d'être fait avec délicatesse, puisque la plupart du temps, ces enfants étaient retirés à leur famille et scolarisés de force dans ces pensionnats. Certains étaient mal nourris, battus et subissaient même parfois des viols, ce qui les amenait donc parfois à tenter de se suicider. En tout, 6000 enfants sont morts dans ces pensionnats canadiens, selon la commission Vérité et Réconciliation qui est menée par le gouvernement du Québec. Beaucoup ont succombé en fait à des maladies répandues à l'époque comme la tuberculose, mais ce sont aussi eh bien, toutes ces maltraitances et toutes ces conditions très très difficiles pour les enfants qui ont conduit à la disparition de centaines d'entre eux, des disparitions que les pensionnats présentaient à l'époque comme des fugues, alors que vous l'aurez compris, la réalité était souvent bien différente. Alors le pape François va recevoir à partir du 17 décembre au Vatican une délégation des peuples autochtones canadiens, donc des représentants de ces communautés amérindiennes. Il pourrait prononcer notamment des excuses officielles pour le rôle joué par l'Église catholique dans ce drame, et c'est quelque chose qui était demandé en fait par les survivants et leurs descendants. On verra donc ce que fait concrètement le pape François le 17 décembre. Enfin, de son côté, pour terminer là-dessus et avant de passer au en bref, le gouvernement canadien a promis une indemnisation, donc une somme d'argent pour toutes les victimes et pour leurs familles. La somme de 40 000 $ canadiens par personne, soit l'équivalent de 28 000 $, avait été décidée, mais elle doit encore être validée dans les prochains jours, donc on verra ce qu'il en est. Un jour férié en hommage aux victimes de ces pensionnats a même été décrété cette année par le gouvernement du Canada. Ce sera donc le 30 septembre. Bref, cette page de l'histoire canadienne commence à prendre de l'ampleur, à être davantage connue de tous. Ça me semble en tout cas essentiel de pouvoir en parler aujourd'hui. Et si vous voulez plus d'informations, du coup, je vous renvoie notamment vers l'enquête du journal Le Monde publiée cette semaine. Le lien est en description. Allez, on passe comme chaque jour maintenant aux actualités en bref. Et on commence avec une première information. L'Autriche, donc pays européen, a annoncé ce vendredi qu'elle confinait l'ensemble de sa population et pas seulement donc les non-vaccinés comme elle l'avait prévu initialement. Et c'est une première, ce reconfinement pour un pays de l'Union européenne depuis cette nouvelle flambée des cas en Europe ces derniers jours. L'Autriche a également annoncé l'obligation du vaccin à partir du 1er février. Et donc ce confinement va commencer à partir de lundi, il devrait durer au minimum 10 jours et il pourrait être prolongé. En parallèle donc, le vaccin va être obligatoire. On va suivre tout ça et on va voir notamment, évidemment, si dans les prochains jours, d'autres pays décident de faire de même ou si, au contraire, ils s'opposent à une telle mesure. La deuxième actualité, c'est un live dont vous avez peut-être entendu parler, je vais vous passer du temps sur Twitter. En fait, ce jeudi soir, le journaliste Romain Molina a fait un live audio, donc ce qu'on appelle un Twitter Space, qui était suivi par près de 72 000 personnes en simultané. C'est absolument énorme pour Twitter en France. Il a en fait annoncé de très nombreuses révélations à venir sur de nombreuses personnalités dans le milieu du football, dont des affaires de corruption, des affaires de violences sexuelles, des affaires de pédophilie, des affaires souvent couvertes selon lui par les instances, les fédérations et donc notamment la FIFA à l'échelle internationale. Il y avait beaucoup de joueurs et de personnes travaillant dans les clubs qui écoutaient le live de Romain Molina. L'objectif donc pour ce journaliste, c'était de donner des premiers éléments, mais aussi d'annoncer des très grosses révélations pour les prochaines semaines et les prochains mois. Évidemment, c'est un sujet qui est majeur, donc on en parle déjà aujourd'hui et on en parlera dans les prochains jours lorsque ces révélations seront détaillées. Allez, on passe à une troisième actualité, quasiment 2 millions d'hectares de forêt, donc soit l'équivalent environ de 2 millions de terrains de football ont disparu dans la forêt amazonienne l'année dernière au Brésil. C'est un record en fait depuis plus de 15 ans selon les derniers chiffres officiels. Ça représente une augmentation de 22% de la déforestation par rapport à l'année dernière et là-dessus, eh bien, beaucoup critiquent l'action du président brésilien Jair Jair Bolsonaro sur ce sujet de la déforestation et les accuser soit d'inaction, soit au contraire d'encourager d'une certaine façon cette déforestation pour favoriser l'économie et le développement de la production dans le pays. L'ONG autrichienne de défense de l'environnement All Rise a même décidé de le poursuivre en justice pour un crime contre l'humanité. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes sûrement déjà au courant, mais on a fait un documentaire en Amazonie justement sur ce sujet-là que j'ai tourné il y a maintenant, ça va faire 2 ans déjà. Donc si jamais ça vous intéresse, vous tapez Amazonie Hugo Décrypte sur YouTube et vous pourrez trouver ce documentaire. Il est disponible gratuitement sur YouTube. Allez, la dernière information quand même aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Faut bien un petit peu, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va parler des dons aux associations qui ont augmenté en France en 2020, selon une étude parue ce vendredi. Alors cet élan de générosité concerne à la fois le montant des dons, qui a augmenté de 7% en 2020 par rapport à 2019, mais aussi le nombre de familles, le nombre de personnes différentes donc qui ont fait ces dons. Ce nombre a augmenté alors que ça faisait que baisser depuis 2013. La principale raison, c'est notamment une baisse de l'impôt spécial qui a été mise en place cette année pour les dons aux assos qui aident spécifiquement les personnes en difficulté. Bref, je serais assez curieux de savoir l'impact du The Event sur les comportements par rapport aux dons, etc. etc. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est une bonne nouvelle que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.